LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Hein, c'est bon ? Je peux faire partir ? C'est bon ?
Mais il n'y a plus de légumes, j'arrive, des carottes.
Gorgettes, elle n'a pas eu la mamie. Je remis à certaines qui n'ont pas eu de gorgettes.
Vous attendez une seconde, s'il vous plaît. Vous les faites attendre.
Mais pourquoi il reste debout ?
Attends, je te ramène ton assiette. Hein.
Manger la France, épisode 3, à table. Elodie Maillot, David Jakubowiak.
Assieds-vous, allez, arrêtez tout, allez, on mange là, allez.
On s'est dit, c'est quoi cet attroupement et...
Ouais, viens, comme ça on va grossir.
On est passé par là, on a vu du monde et au départ, on était venu voir la médiathèque à côté et on mange un couscous délicieux. Couscous avec de l'agneau, des petits légumes, un peu d'harissa.
C'est l'histoire d'un repas, un repas comme nulle part ailleurs et pourtant que tous les Français ont déjà vécu. Un repas en France. Ici, à Marseille, au Plan d'Aou, dans les quartiers nord, c'est un repas ouvert à tous, organisé dans la rue. Un banquet public, un peu comme pour bien finir une BD d'Astérix. Ici, la table est dressée par les femmes du quartier, qui se retrouvent régulièrement pour cuisiner dans un lieu associatif. Aujourd'hui, le menu célèbre un des plats préférés des Français, le couscous. Depuis 2010, ces déjeuners ou dîners, à la fois informels et festifs, à la bonne franquette ou en grande pompe pour célébrer une occasion. Bref, cette bonne bouffe que tous les Français comme vous et moi peuvent partager un jour dans leur vie fait désormais partie du patrimoine immatériel de l'humanité, reconnu par l'UNESCO et porté par la vénérable mission française du patrimoine et des cultures alimentaires.
Parce que la blanquette de veau, tu l'as fait avec la truc de vol au vent.
C'est-à-dire
tu prends ton vol au vent et tu l'as rempli avec ta blanquette de veau et tu manges.
Je savais.
Tu connais rien, tout ça. Eh, tout ça prend dans la vie.
Eh ben ouais. Hein.
Tu vas avoir le choix et le choix.
Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale, coutumière, destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes. Il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art du bien manger et du bien boire. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature.
C'est ça, il y a des grandes casseroles. Ils ont fait un grand couscous, il y en a. Voilà. Et on travaille tous ensemble avec le cœur. Quand on est là, il y a des cuisinières qui sont là avec nous. Ils nous donnent la main, ils nous aident, et ça c'est important.
Swad, cuisinière au Monticule Culinaire, lieu associatif du Plan d'Aou, à Marseille.
Alors quand j'ai pas travaillé un temps, j'ai senti vraiment l'enfer. J'ai touché 800 euros des RSA. Et j'avais encore 3 enfants à la maison. Vous allez faire quoi ? Eh bien, je ne vous mens pas, je mangeais plus de pâtes qu'autre chose. Des pâtes. Et c'était pas une vie. Des pâtes, mais il n'y a rien dedans. Eh bien, mes enfants me disaient, oh, c'était trop bon. Parce que, mais ça fait peine. Un enfant vous dit, c'est trop bon, il n'y avait que des pâtes avec de l'huile d'olive et de l'ail. Pour l'avoir vécu, pour comprendre. Moi, il y a une période, je faisais des poubelles. Eh bien, j'allais à Lidl, tout ça, tout ce qui restait, je fouillais ce qu'il y avait. Et pourtant, ils mettaient des produits, tout, il y a longtemps déjà. Mais c'était vraiment périmé, et on prenait ce qu'il y avait. C'est pour ça que je dis bien que c'est dur. Et tu es tellement pris par la boucle de la misère qu'on ne fait même plus attention. On mange pour manger.
C'est pour ça que les assiettes, il faut les passer derrière.
Et moi, pourquoi ça m'intéresse que les femmes viennent cuisiner ? Parce que ça leur redonne envie de faire un gâteau pour leurs enfants. Et c'est l'amour, pour moi, c'est beaucoup.
Voilà.
Et ça, c'est beau. C'est ça, bien manger. Et apprendre avec les autres. Et manger aussi ensemble. Ça, c'est bien. Se mettre à table et manger tous ensemble, comme on va faire ce soir. On s'assoit, on mange tous ensemble, ça fait plaisir. Et c'est ce que c'est un bon repas.
C'est essentiel, on va dire, de laisser cette place de sortir de ses habitudes, en fait, pour aller rencontrer quelqu'un qui... Oui, de forcer la rencontre.
Emmanuel Perraudin, cuisinier nomade.
Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre à travers une partie de mes installations, de faire en sorte que les gens se rencontrent alors qu'ils ne se connaissent pas. Mm-hmm. Ce que je cherche avec ces grandes tablées, c'est de montrer et de voir comment on peut s'entrevivre et s'entre-rêver vraiment. L'idée, c'est de complètement éclater ce qu'est la table française en gardant l'esprit de ce qu'est la table française. C'est-à-dire que c'est une architecture, le repas français. C'est ça qu'on met en avant à l'UNESCO. C'est le rituel du repas. Et c'est l'aspect du rituel dans le repas qui est intéressant.
Comment vous, vous définiriez quels sont les critères d'une table à la française, par exemple? Qu'est-ce que c'est une table à la française? C'est quoi les codes? C'est quoi les valeurs? C'est quoi ce qu'on retrouve?
Ce qu'on retrouve pas ailleurs. Bon, déjà, on est assis, évidemment, à table. La notion de rituel, elle est vraiment essentielle. Le fait que le repas soit rythmé, avec toute une série de hors d'œuvre, entrées, plats, fromages, desserts, et puis ce qui suit ensuite. Cet ordonnancement des choses, mais qu'on n'est pas obligé de suivre dans son intégralité. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Parce que le temps est scandé. Je mets la table, même pour moi. Je dresse la table pour moi. C'est très singulier. Je me demande même si ne pas dresser de table ou ne pas manger en respectant une forme de rituel, c'est déjà se dissoudre, ne pas forcément aller être au mieux de sa forme, en tout cas. Ça dit peut-être quelque chose de son propre état. Une famille qui, par exemple, qui ne partage pas de repas, une famille qui ne communique plus vraiment, en tout cas, je peux en témoigner. À un moment donné, ça a été le cas chez moi. La table n'était plus forcément partagée. Parfois, ça s'écroule malgré soi, mais il faut maintenir. Je pense que c'est bien de maintenir ça, ce rituel-là. Et l'acter. Acter de prendre le temps de manger. Et c'est essentiel. C'est pas... Ça remplit une fonction nourricière, mais cette parenthèse de temps-là, elle est quasi sacrée. Vraiment. Et il y a de ça derrière le repas français. Je ne sais plus très exactement ce qu'il y a dans ce que reconnaît l'UNESCO. J'en ai plus absolument du tout l'idée. Là, je vous parle juste de ce qui, me marque, en fait.
Le repas gastronomique doit respecter un schéma bien arrêté. Il commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre les deux au moins 4 plats, à savoir une entrée, du poisson et ou de la viande avec des légumes, du fromage et un dessert.
Personnes reconnues comme étant des gastronomes qui possèdent une connaissance approfondie de la tradition et en préservent la mémoire, veillent à la pratique vivante des rites et contribuent ainsi à leur transmission orale ou écrite aux jeunes générations en particulier.
Le repas gastronomique resserre le cercle familial et amical
et plus généralement renforce les liens sociaux.
Comment vous définiriez ce que vous appelez la commensalité qui fait partie du texte du patrimoine immatériel de l'UNESCO qui reconnaît le repas gastronomique des Français?
S'il s'agit de définir la commensalité, on peut simplement dire que c'est ce plaisir à être ensemble.
Directeur de la mission française du patrimoine des cultures alimentaires.
À la fois accueillir, partager de bons plats, accompagner de bons vins pour passer un moment agréable dans une petite communauté. La spécificité française, elle a été dans la démarche de dire, nous n'avons pas dit que nous avions la meilleure gastronomie au monde, nous avons dit que nous y attachions énormément d'importance, à tel point que nous sommes convaincus que c'est un élément essentiel de notre culture, notre patrimoine, notre identité. Donc c'est là la spécificité. On l'a pris comme exemple aussi le repas et le tour de Gaulle d'Astérix et Obélix, en disant il y avait 3 ouvrages qui étaient possibles de présenter à l'UNESCO, c'est assez scolaire comme dossier. Il y avait le Grand Larousse de la cuisine, un ouvrage du CNRS sur les manières de table du 17e à nos jours, et l'album d'Astérix et Obélix, le tour de Gaulle, qui de façon un peu humoristique aussi, c'était important de montrer que si on avait un fort attachement à cette culture gastronomique, on savait aussi peut-être en rire. Et au fond, c'est ça. Bon, le jargon dit la pratique sociale est festive, mais oui, c'est ça, c'est un bon moment. C'est le gueuleton, la bonne bouffe aussi. C'est évidemment aussi le dîner d'État avec tout le décorum, avec cette attention particulière, les meilleurs vins qui sont sortis, les meilleurs produits, les meilleurs savoir-faire qui sont mis en avant. C'est de développer cette culture, disons, dans ces différents moments.
C'est là qu'est tout l'enjeu de la table, à vrai dire aussi. Que ce soit à des fins politiques ou à des fins amicales ou peu importe, il y a toujours quelque chose. Il y a une intention derrière une table. On ne dresse pas une table pour rien. Et la personne qui est à côté de nous nous touche. Parfois ça marche, parfois ça marche pas du tout. Parce que justement, c'est pas rien d'accepter de partager ensemble un repas assis.
Ça veut dire que c'est intime, mine de rien, le repas ?
C'est une vraie question. Oui, j'aurais tendance à dire oui, c'est intime, même dans la représentation politique. Même si vous êtes invité chez la reine d'Angleterre, vous suivrez des règles que vous ne pensez pas suivre, mais malgré tout, ça va dire quand même quelque chose de vous et de votre rapport à l'autre. C'est-à-dire que, bien sûr que d'avoir partagé un repas avec quelqu'un fait qu'on va, à partir de là, entretenir d'autres relations avec lui. Bien sûr que c'est bien pour ça que c'est utilisé pour des repas d'affaires ou des choses comme ça, évidemment. Et on peut jouer avec de plein de sens différents pour essayer de, justement d'embarquer avec soi les gens si jamais on veut leur raconter une histoire ou si jamais on veut les mettre dans une perspective particulière. Faciliter une négociation, une discussion. Comment réussir à parler avec ses enfants ou avec son ami quand on a quelque chose à lui dire ? La table, c'est quand même le meilleur endroit pour ça.
Qu'on parle nappe, vous voulez qu'on parle quoi ?
François Motte.
Déjà, on a, y a une table, elle est dressée.
Directeur artistique en art de la table.
Donc, dresser la table, c'est une expression, mais c'est une expression au départ au sens propre. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge ou pendant la Renaissance, autant vous aviez des tables de ferme, des tables de cuisine, ce genre de choses, mais les cours étaient itinérantes et le meuble de table n'existait pas. Une table, c'était des tréteaux et un plateau. Et on dressait la table au sens propre. Les éléments sur la table, je pense, vous situent socialement. Donc on se réfère toujours à des époques où on avait sûrement quelque chose en dessous, une sous-nappe, une sur-nappe, des choses très riches, très lourdes, voilà.
Qu'est-ce que vous posez, François, en premier sur la nappe ?
L'assiette, parce que l'assiette, ça vous permet, on parle de marquer les places en fait. Ça vous permet, si vous avez un banquet républicain, de savoir que c'est 50, 60, 70, 80 cm entre deux assiettes, selon qu'on est à Versailles ou qu'on est dans un petit, voilà. Donc, là j'ai posé mon assiette sur table. Après, j'ai joué le mix and match sur les assiettes qui sont en dessous. Donc, il y a une même tonalité de vert, donc ça marche plutôt joliment ensemble. Donc, après ça, super important, c'est vos couverts, ils doivent être au cordeau.
Non, c'est pas bon, venez ici, prenez ma place. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas que notre restaurant est l'ambassadeur de la gastronomie française et que ce soir, en servant, vous servirez la France. Allons-y. 3, 4.
Soit vous faites le menu en fonction de votre vaisselle, soit vous faites la table en fonction de ce que vous allez servir, forcément. Là, si vous regardez la table, normalement, vous savez à peu près ce que vous mangez. Bon, allez, à vous de jouer. Là, vous avez des couverts à...
Poisson ?
Ouais, bien.
Poisson ?
Poisson. Okay. Donc, on sait qu'en entrée, on va plutôt manger quelque chose à base de poisson. Sachant que ce sera plutôt un poisson qu'un crustacé. Parce que si vous aviez, par exemple, une salade de crevettes, la crevette, il faut que vous la coupiez. Un couteau à poisson ne coupe pas. Si je vous donne cette fourchette,
oui.
Qu'est-ce que vous remarquez ?
Elle est massive, c'est une belle fourchette.
Elle est lourde, donc ça c'est déjà important. Ça veut dire que c'est a priori de l'argent, et c'est toujours plus agréable de manger avec un couvert un peu lourd en main. Enfin, qu'on sente le couteau ou la fourchette avec lesquelles on va manger. Non, ce qu'il faut noter, c'est de l'autre côté.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des armoiries ?
Il y a
quelque chose d'un peu héraldique.
Exactement. Donc, en fait, votre fourchette, si vous la mettez les dents contre la table, vous voyez les armoiries. Donc, si c'est de ce côté-là, ça veut dire que c'est des couverts français. Et en tout cas, vous allez les mettre à la française. C'est-à-dire que vous allez les mettre vers le bas.
Comme une fourche. Enfin,
Une fourche, en fait vos pics sont sur la table, ils ne sont pas agressifs vers le haut. Et ça, c'est très français. Là, sur le côté, vous ne mettez pas plus de 3 couverts pour des services. Interdiction d'en mettre plus.
Que la table soit dressée, c'est pas rien, ça. Qu'une table soit dressée pour manger. Même si le rite et même si le rituel n'est pas parfaitement respecté à tous les repas, mon Dieu, heureusement. Sinon, le rituel perdrait toute son importance. Malgré tout, il y a cette façon de scander à nouveau à chaque fois quelque chose. La table est mise en récit. Et il y a une histoire racontée au début, une histoire racontée à la fin. De voir comment, encore une fois, comment la table peut être le chapitre d'une histoire, comment un repas peut être le chapitre d'une longue histoire. Si la France a joué un rôle si important dans l'histoire de la cuisine mondiale, c'est aussi parce que la cuisine a été utilisée comme élément de pompe. Que ce soit pour de la grande politique ou pour de la politique locale. Ça se vit encore, de mon point de vue, dans ce qu'est le repas français. Parce qu'il y a toujours cette intention-là. En fait, on sait naturellement que la cuisine, c'est un peu plus que ce qu'on a dans l'assiette. Et cette part de rituel, malgré tout, elle est là.
Loïc Bianassi, est-ce qu'on pourrait dire que recevoir, ce serait faire venir à soi sur ces lieux de pouvoir et donc ça permet quand même d'imprimer une certaine marque de la France?
Tout à fait. On a un repas qui s'est tenu à Paris en 1378, un grand banquet où en fait le roi de France Charles V reçoit l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles IV. Et on voit déjà, on est en 1378, on va évidemment pas parler de cuisine nationale, et bien on se rend compte que pour ce repas de 1378, clairement le banquet a été un moyen d'impressionner. Alors quand c'est comme ça d'ailleurs, un banquet ça s'inscrit dans un dispositif d'ensemble, c'est-à-dire que le repas fait partie de tout un tas de réjouissances, de festivités, et pendant le repas, si je continue avec cet exemple de 1378, il y a ce qu'on appelait des entremets, qui étaient des grands divertissements. Donc ça se tenait au Palais de la Cité, dont il reste aujourd'hui la conciergerie, et au sein de la grande salle de la conciergerie, qui était la plus grande salle en Europe, on a un banquet qui réunit peut-être 1000 personnes, et sont reconstituées des scènes de la première croisade. Tout ça pour dire que vraiment, là, il s'agit d'impressionner. Mais dans les plats aussi, par la cuisine aussi, clairement, là, on a des petits indices qui nous laissent entendre que, sans doute, il y a eu là le désir d'impressionner par le contenu, alors j'allais dire des assiettes, il n'y avait pas d'assiettes au Moyen-Âge, hein, mais par le contenu des tailloirs, où il s'agissait d'impressionner l'empereur par la cuisine qu'on le proposait, que ce soit en quantité ou en qualité. En France, à partir de la moitié du XVIIe siècle, du milieu du XVIIe siècle, il y a sans arrêt de nouveaux livres de cuisine. Et il y a des discours qui construisent pour dire que on élabore maintenant une nouvelle cuisine, on ne fait plus celle qu'on faisait 30 ans auparavant. Donc se construit une forme de distinction autour de, j'allais dire, il faut être à la page même en matière culinaire. Ben, on peut penser que c'est construit en Europe l'idée d'une distinction selon laquelle il fallait manger français pour finalement tenir son rang, que ce soit pour un aristocrate suédois, espagnol, polonais ou anglais ou russe.
Il faut être moderne.
C'est ça.
Pour être moderne, il faut manger français.
En matière culinaire, il y a cette idée-là.
Le porte-couteau, c'est quoi ? Le porte-couteau, c'est un truc de petit bourgeois qui veut jouer le grand bourgeois mais qui n'a pas les moyens. Un grand bourgeois ou un aristocrate au XIXe siècle, il change sa nappe à tous les repas. Il a des lingères, il a des repasseuses, enfin, il a du petit personnel, quoi. Donc, il s'en fiche que sa nappe soit sale. Et pour chaque plat, il a le couvert qu'il faut. Donc, à chaque service, son couvert. Si jamais, pour une raison ou une autre, ben vous voulez vous essuyer la bouche, il va falloir que vous les posiez, vos couverts. Donc, vous les posez, ben je me trompe, à 16h20, 4h20, comme ça, dans votre assiette.
Donc parallèle, les deux...
Parallèle, on ne croise pas ces couverts, malheureuse. Je ne sais pas si c'est un truc du diable ou quoi, mais on ne croise pas ces couverts. Et donc, comme vous êtes dans une famille où il y a de la domesticité, Vous avez posé vos couverts comme ça. Donc le serveur sait qu'il ne faut pas vous retirer votre assiette, que vous n'avez pas terminée. Parce que votre assiette, là, il y a peut-être encore un peu de saumon dedans, d'accord? Donc là, vous avez besoin de vous essuyer la bouche. Vous posez vos couverts, vous essuyez la bouche. Lui qui est derrière, là, il voit ça, il dit, elle n'a pas fini. Mm-hmm. Vous reposez ça, vous reprenez, je mange, blabla. Vous avez fini. 15h15. Comme ça. Et là,
c'est proche.
Quand tout le monde est à 15h15, on débarrasse. Voilà, c'est une affaire de ponctualité.
Parmi ces composantes importantes figure le choix attentif d'Aimé parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir. L'achat de bons produits de préférence locaux dont les saveurs s'accordent bien ensemble, le mariage entre mets et vins, la décoration de la table et une gestuelle spécifique pendant la dégustation. Humer et goûter ce qui est servi à table.
Donc le service à la française, en fait, c'est un prolongement depuis fin du Moyen-Âge, Renaissance, et surtout cour princière, cour royale. Le service à la française, c'est ce service où, en fait, on apporte à table une multitude de plats dans une symétrie. Alors déjà, ça arrive de façon totalement orchestrée, de façon chorégraphiée, ça peut arriver en musique, et chacun se sert. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de place sur la table. Donc, par exemple, à cette époque-là, vous n'avez pas de verre. Vous avez soif, il y a beaucoup de domestiques, c'est donc vous allez avoir votre propre domestique qui ne va s'occuper que de vous. Donc vous allez dire, vous levez la main, et puis il va vous amener votre gobelet ou votre verre que vous allez boire, vous allez lui rendre, et puis il reviendra quand vous aurez soif à nouveau. Et derrière, vous avez plein d'accessoires qui vont avec, parce que votre verre, il faut le tenir frais, donc vous avez des rafraîchissoirs à verre, vous avez des rafraîchissoirs à liqueur, vous avez des rafraîchissoirs à champagne, vous avez des seaux à vin, vous avez plein de choses derrière qui sont posées, qui sont plein d'objets merveilleux en argent. La table, une fois encore, est un vrai marqueur social. C'est-à-dire que vous savez quand vous êtes à table, vous vous tenez droit, normalement votre dos ne touche pas l'arrière de votre chaise, vous ne mettez pas vos coudes sur la table, vous mangez la bouche fermée, enfin tous les trucs qu'on nous a appris. Et ça, c'est... Les règles, il faut les connaître. On peut en sortir, mais c'est mieux, quoi, toujours. Mais je ne vais pas vous dire que c'est comme l'orthographe, parce que l'orthographe, non, vous n'avez pas le droit à la faute, c'est plus par rapport à la syntaxe et au style. Après, vous pouvez vous permettre des choses. Mais il faut connaître les règles quand même pour pouvoir en sortir. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de petits provinciales arrivant à Paris, me retrouvant à un déjeuner dominical chez des copains d'études qui sont d'un milieu un peu plus élevé, quoi. Donc, parfois, enfin, je veux dire, quand on vous amène les fruits à table et qu'il faut manger votre pomme avec le couteau et la fourchette, il y a un grand moment de solitude, quoi, quand vous ne l'avez jamais fait. Donc ça, c'est le pire qui puisse vous arriver. Mais il y a un truc très simple. À partir du moment où le maître ou la maîtresse de maison a choisi de mettre ses couverts-là ou de servir ce plat-là, ça veut dire qu'il sait le manger. Donc, vous le regardez faire.
Est-ce qu'on pourrait dire, Loïc Bienassi, qu'il y a une histoire des bonnes manières à la française, à table? Est-ce que la France impose un certain art de vivre aussi, à table, au monde?
Est-ce qu'il y a une histoire des bonnes manières à la française? Tous les pays ont leur traité de bonnes manières. Nous, en France, on a, depuis le Moyen-Âge...
Quel genre de, par exemple?
Ne pas parler la bouche pleine, ne pas manger en ouvrant la bouche. Alors... Rien autour de la fourchette, puisque la fourchette, à ce moment-là, on mange avec les doigts. La fourchette ne s'est pas encore imposée. C'est l'Italie, hein, elle vient d'Italie. Elle s'impose que très lentement dans toute l'Europe. Encore au début du XVIIe siècle, elle est tout à fait rare dans les autres pays d'Europe. Ça a été un processus timide. Fin XVIIe siècle, elle est devenue plutôt banale au sein de la haute aristocratie française. Et puis au XVIIIe siècle, elle est totalement installée en Europe. Mais justement, vous voyez, je pense que c'est révélateur, cette histoire de la fourchette, parce que on voit qu'il y a des influences croisées, s'il n'y a pas un centre. On ne peut pas dire que la France soit un modèle de bonne manière, si on parle vraiment en manière de table. Salut à votre...
Je suis étonnée.
Non, parce qu'en fait, on a des traités métiers de bonne manière qui fleurissent un peu dans tous les pays. Ce qui est marquant au 19e siècle, c'est la multiplication des objets. C'est-à-dire qu'il y a des couverts pour tout, des services pour les fraises, pour les huîtres, pour le caviar, et puis des types de verres pour tous les types de vins. Cette multiplication des objets, elle n'est pas propre à la France non plus. Donc ça, je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que pour les bonnes manières, il y ait une imitation stricte de la France. Je ne pense pas, en l'occurrence.
Donc on pourrait dire, Loïc Bernassi, que dans tous les pays du monde, on ne parle pas la bouche pleine.
Sans doute, je pense, parce que c'est une règle universelle. J'ai jamais réfléchi à ça.
Vous parlez la bouche pleine ou pas?
Non, ça j'essaye de... Je ne dis pas que je mange toujours proprement, mais ça j'essaye de...
Ah oui.
Je veux dire, moi j'ai pas de problème dans un repas de potes associer mon truc, donc mes potes ils vont me regarder saucer avec les doigts, voilà, ils vont s'y mettre aussi quoi. Mais je ferai jamais ça si je suis invité chez des gens et que je vois que le maître ou la maîtresse de maison ne le fait pas, bien entendu. Dans les règles, je suis pas sûr que vous ayez le droit de saucer, même en piquant votre bout de pain au bout de la fourchette. Cependant, il y a eu ce truc qui est apparu avec la nouvelle cuisine dans les années 70, qui était la pelle à sauce. Ça, c'était un instrument, c'est une des rares choses qui est apparue en matière d'art de la table dans les 50 dernières années. Mais moi, je trouve qu'il manque le pain quand même dans la pelle à sauce. Et ce qui est bon, c'est la sauce sur le pain et les doigts. Alors ça, c'est un super joli objet, quoi. Les côtelettes. Vous aimez ça, les côtelettes?
Oui.
Les petites côtelettes, les toutes petites côtelettes d'agneau.
C'est avec les doigts.
Bah, c'est super bon avec les doigts. Sauf que pareil, vous n'avez pas le droit. Puis avec le couteau et la fourchette, c'est juste tellement kikinant de rogner les os, c'est pas possible, quoi. Et rogner les os, c'est tellement bon, quoi. Et donc, ça, c'est une mini pince à gigot. Ça fait quoi? C'est comme plus petit qu'un manche de couteau de table, en fait. Et donc, vous passez votre petite côtelette dedans, vous avez une vis, vous serrez. Et c'est juste génial, parce que vous êtes un carnivore, là, quoi. Enfin, c'est Cro-Magnon à la cour de Louis XIV, quoi, qui mange sa côtelette, comme ça, avec les mains, mais pas avec les mains, avec cet ustensile.
Voilà. Formidable. Je mélange le tout.
Et après?
Et je vais me frotter ma viande avec tout ça. Là, je vais en mettre partout. Voilà. Hop.
Qu'est-ce qu'elle est belle.
Là, elle est belle, c'est un peu courte.
On sent qu'elle va être bonne.
Plus que ça, même.
Ouais.
En me baladant sur Internet pour scruter les traditions et les nouvelles tendances made in France, je suis retombée sur les délices subversifs de l'émission La cuisine des mousquetaires de Maïté et Micheline Bonzet. Avec ses mises en scène de nos patrimoines, ses animaux vivants en studio, les mains de Maïté dans le beurre, et surtout un certain plaisir non coupable de manger, certaines scènes pourraient mériter un hashtag qui fait plusieurs millions de vues sur Instagram, foodporn, de l'anglais food, nourriture, et porn, pornographie.
Alors, foodporn, non, c'est pas un nouveau mot. Enfin, il y a le gastroporn. Le gastroporn est arrivé dans le New York Times dans les années 70.
Clémentine Hugo-Gential, auteure de Corps, Alimentation et Réseaux sociaux.
On a parlé de gastroporn pour qualifier à l'époque la cuisine de Paul Bocuse. Alors, le gastroporn, comme le foodporn au départ, c'est ce que Lacan appellerait le plaisir scopique, le plaisir de l'œil, de celui qui regarde. Donc il y a ce côté vraiment des images saturées, des couleurs vives, on est dans les trucs dégoulinants aussi, on est vraiment dans... Il y a quand même au départ cette idée d'érotisation avec des images alléchantes, des gros plans, ce genre de choses. Et c'est aussi la réminiscence, l'alimentation doudou. Le truc qui va nous faire du bien.
Il y a une idée d'assumer la pornographie, il y a quelque chose de subversif.
Oui, il y a ça, il y a effectivement, on va manger en grande quantité. Ça, c'est un discours qu'on trouve beaucoup sur la viande aussi. Ouais, on va manger notre côte de bœuf bien saignante. On n'est pas dans la mouvance des discours actuels qui nous disent de réduire notre consommation de viande. On va avoir ça.
On est rebelle.
Un peu en opposition avec... une volonté écologique qui serait vue comme punitive.
L'intérêt, ce n'est pas que ce soit mangé, c'est que ça donne envie d'être mangé. Le food porn reste de l'image avant d'être une dégustation.
Ludovic, alias Ludo Béfood.
Si on a du gros viandard, une bonne viande rouge qui est en train de cuire sur le grill avec de la fumée.
Photographe culinaire.
Il faut qu'il y ait de l'action qui va changer un peu ce qu'on a l'habitude de voir partout, ça marche très bien aussi. Mais donc voilà, donc pour les viandards, il y a ça. Après, pour tous les végétariens, on sait que la couleur verte est celle qui est la plus captée par l'œil humain, donc c'est une couleur qui est très très intéressante à mettre en avant. Donc on va avoir un rouge très vif avec un vert très vif. C'est vrai que pour de la photo Instagram, on va pas faire exactement la même chose que de la photo magazine. Il faut que en une microseconde, la photo donne envie à la personne de s'arrêter dessus. Il faut que la photo soit impactante par rapport aux autres. C'est vraiment que la personne soit, quand elle regarde la photo, qu'elle ait les babines qui salivent, ce genre de choses. C'est que faut que ça donne envie immédiatement. C'est quelque chose qui coule, quelque chose qui est gras. On se dit que jamais on le mangerait, et pourtant en voyant la photo, on se dit qu'est-ce que j'ai envie d'avoir ça. Alors qu'il est 10h, on vient de se lever, et parfois on peut pas s'en empêcher de vouloir ce produit dans son assiette sur l'instant.
L'odeur, le crépitement, c'est autant olfactif que visuel. Là, on parle de pulsion. Le fromage fondu, ouais, ça m'élève.
Et pour le premier défi, deux binômes vont devoir rendre gastronomique le plaisir coupable de Joe Estar, qui est également le péché mignon numéro un des Français, le fromage fondu.
Est-ce qu'il y a une différence entre les visuels qu'on peut voir aujourd'hui sur Instagram de ce que vous qualifiez de food porn, avec peut-être des sauces très lourdes, beaucoup de crème, beaucoup de choses qui dégoulinent, et l'histoire de la gastronomie française qui quand même est très,
très riche, oui.
Est très riche mais ne revendique pas pour autant ce côté, oui, pornographique. Est-ce que c'est la suite de
oui,
de tout ça, ou c'est une réaction, alors, contre?
C'est intéressant comme parallèle, j'y avais jamais pensé.
En France, passer du beurre et de la crème, c'est impossible, parce que qu'est-ce qui a fait la renommée de la cuisine française? C'est finalement tous nos crus de beurre, tous nos crus de crème. D'ailleurs, vous voyez, là, ce matin, on fait un peu de cuisine, tiens, passe-moi de la crème. Et sans crème, c'est pas possible de travailler. Donc, vous voyez, on travaille avec des crèmes de Normandie qui sont très, très épaisses, et c'est ça, finalement, la cuisine française. Et vous voyez, hein, comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein. On passe une moyenne dans notre restaurant de 200 grammes de crème par client.
C'est vraiment un volume dont on ne parlerait plus aujourd'hui. Et on le voit qui cuisine avec des énormes morceaux de beurre de 10 kilos. Enfin bon. Et à chaque fois, je montre à mes étudiants en disant, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait montrer ça dans une émission de cuisine? Ah bah non, on ne pourrait pas. Aujourd'hui, il faut montrer ce qui est sain. Mais effectivement, il y a de ça. Il y a ce côté, montrer une alimentation très riche. Et l'alimentation française, telle qu'elle était, c'était une alimentation plutôt très riche.
Alors moi, bon, pour commencer à travailler sur cette série documentaire sur l'alimentation, la cuisine et la gastronomie en France, j'ai commencé à aller sur Instagram. Donc depuis que j'y suis, évidemment, je reçois beaucoup de vidéos.
Ouais, là c'est une publication sponsorisée. On a des propositions de restaurants, des lieux à découvrir. Et puis normalement, on devrait avoir des recettes.
Salut Néo, c'est Paul-Marie, je suis boucher charcutier et aujourd'hui c'est tarte tatin au boudin noir. Pour faire une tarte tatin au boudin noir.
Ah bah là, on a de la recette ici.
Des bonnes pommes et une bonne pâte feuilletée. Première étape, donc le boudin. Tu vas chez ton boucher, tu prends deux boudins boyaux, ça fait à peu près 300 grammes. Là, du coup, je coupe le boudin, t'enlèves le boyau, tu les écrases bien. Dans ton cercle, et là tu lisses dans ton cercle.
Elle est intéressante cette vidéo là parce qu'il y a plusieurs choses en fait. Bon, il y a déjà le chef qui explique comment reproduire quelque chose chez soi qui soit plutôt élaboré ici. Donc on n'est pas dans la cuisine du quotidien, on est quand même dans quelque chose de plus élaboré.
Et sur le boudin.
Et surtout le boudin, qui normalement n'est pas quelque chose de très Instagrammable, où là bah, on le transforme en tatin. Et on en fait quelque chose de bon, on espère, hein, on ne sait pas, on n'a pas goûté, mais et de joli. On voit bien qu'ici, le boudin est retravaillé de manière à finalement avoir les codes esthétiques de publicisation possibles. Vous n'aurez jamais un boudin comme ça qui sera jeté en photo sur Instagram. Par contre, là, vous voyez comment finalement on esthétise un plat qui au départ n'est pas du tout un plat Instagram. Vous n'avez pas un boudin aux pommes classique aussi, vous avez la tatin de boudin.
Ça vous permet d'avoir un crème tant patillon ou développé. On peut l'insérer sur le dessus. Et donc là, chez vous, vous le laissez un peu reposer une petite demi-heure pour pouvoir démouler à froid.
Donc c'est assez intéressant pour ça, effectivement. Là, on a eu en direct, en le regardant ensemble, un code d'esthétisation du boudin.
Alors, la cuisine française, elle est moins sexy parce qu'elle ressemble plus à une ragougnasse, parfois.
Si la cuisine italienne ou la cuisine asiatique a autant circulé sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est plus lisible graphiquement. Alors que la cuisine française, avec le mijoté, elle va moins avoir de texture, elle est moins visuelle.
Esterel Payani.
Elle est plus dans le goût.
Critique culinaire.
On peut pas, par une image, transmettre le goût du plat. En fait, on n'en a pas idée. Le nombre de fois que vous goûtez un plat, vous avez vu le truc, c'est super beau, vous le goûtez, vous faites « Hein ?» Non, en fait, il faut pas croire ce qu'on voit. On ne peut pas goûter son écran. On ne lèche pas son téléphone. Essayez de dessiner
une blanquette.
Ouais, on en revient toujours à la blanquette. Hein.
Un pot-au-feu.
Un pot-au-feu. Essayez de dessiner un pot-au-feu avec l'os qui sort et tout. Pas simple, hein. Donc ça impose des dressages plus sophistiqués pour la rendre appétissante. Si on passe du temps à faire des petits traits sur le haché parmentier, justement, et à ouvrir juste une part pour montrer l'intérieur, c'est parce qu'il y a une manière presque canonique de le présenter pour que ça soit à peu près appétissant.
Sinon, c'est pas possible.
Sinon, ça a l'air moins bon. En fait, ça a l'air moins bon que ce que ça n'est réellement. Et il part avec un handicap, ce haché parmentier. Alors que dès qu'on veut avoir du like, la pâtisserie, ça marche à tous les coups. Bah, c'est joli, c'est petit, ça participe à une objectification, en fait. Ça ressemble à un objet. C'est joli comme une ombre à paupières, comme un rouge à lèvres. Ça devient des objets saisissables. Vous savez ce que c'est face à vous.
Est-ce qu'on peut dire que le pâté croûte, c'est devenu un premier plat français plus instagrammable, entre guillemets, que la blanquette? Est-ce qu'il y a une vague du pâté croûte aujourd'hui?
Déjà, pâté, ça veut dire ce qui est cuit dans une pâte. C'était pour préserver. On est au croisement entre la pâtisserie et la charcuterie, quand même. Hein. Le pâtissier travaille de la pâte. Pâté croûte, il y a de la pâte. Donc c'est un petit croisement. Après, oui, c'est instagrammable. Et oui, le fait qu'il y ait eu le championnat du monde de pâté croûte a continué à populariser la chose. Et c'était plus sexy, c'était plus joli, ça semblait plus noble de faire un championnat du pâté croûte que de faire le festival de la tripe ou du boudin noir. C'est peut-être un des rares plats qui pouvait avoir un aspect qui pouvait sembler esthétique sur les réseaux sociaux. Disons qu'il y a un travail performatif, ça se voit. Quand on le monte, il y a le travail de la croûte, les découpes, et c'est érigé au rang d'art.
Et aujourd'hui, j'ai un mal fou, par exemple, avec les photos de plats.
Pierre Gagnère.
Pendant des années, pour moi, la cuisine, il fallait qu'elle soit belle à regarder.
Cuisinier.
Peu importe le goût, il fallait qu'elle soit élégante et qu'il se passe quelque chose visuellement. Voilà. Parce que quand on voit les livres de cuisine des années 60, c'était l'horreur. Hein. C'était d'une laideur, la cuisine. Enfin, c'est une espèce de patia, comme on dit. Enfin, il y avait...
Quoi?
Patia, c'est ce qu'on dit à Saint-Étienne. Un patia, c'est... j'ai employé un deuxième mot, c'est Van Wouk. Ébouillé, vous savez, dans le... Oh, il n'y avait aucune élégance. Et cette élégance, elle est venue avec la nouvelle cuisine. Le choix de la vaisselle, des portions plus petites. Et j'ai réussi à offrir des images qui étaient belles. Aujourd'hui, on est dans le monde d'un peu d'images, donc il faut que ça soit... Alors, pour le coup, il faut que ça soit instagrammable. Alors, moi, je ne suis pas du tout... Alors, justement, je peux être là-dedans, quoi. Là, je suis des... Là, pour le coup, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, le beau dans l'assiette, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que ce soit beau. Ravioles, artichauts, cèpes, croquettes, ça, oignons fan, rhubarbe et... En fait, on construit un or sans que les gens s'en rendent compte. La façon dont c'est disposé sur la table. Je pourrais aller plus loin, mais pour que ce soit un peu joyeux, un peu libre, vous voyez. C'est pas la messe, quoi, c'est pas... C'est du jazz, c'est pas de l'opéra, quoi, vous voyez, c'est du...
Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche,
ça marche, c'est un spectacle. Quand vous êtes sur un plateau d'un théâtre ou d'un concert... Tout le monde s'agite, voilà, on vérifie les micros, voilà, c'est le bordel, enfin, et puis à un moment, hop, alors on... Toc, tout s'arrête, le rideau s'ouvre, et la magie opère. chacun joue sa partition. Ben, un restaurant, c'est pareil. Voilà. Alors, il y a tout le monde sa affaire, évidemment, ben, tout. C'est l'entonnoir, tac. Et puis, voilà, on est prêt. Le pain est cuit à bonne température. Chacun voilà, a vérifié son poste. Et puis, voilà, puis on y va. C'est parti. Voilà. Et ça, deux fois par jour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va ? C'est un voyage.
Très bien.
Bonjour.
Toujours un plaisir. Vous allez bien ?
Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est un moment qui est marqué d'une pierre blanche pour ceux qui viennent s'asseoir. Donc nous, on doit être à la hauteur de ce rendez-vous. On doit être en mesure de leur procurer 3 voire 4 heures de plaisir, de voilà. Et à travers cette satisfaction, ben nous, ils nous renvoient des ondes positives, des ondes chaleureuses, amicales, qui fait qu'on ben, on a l'impression d'être utile, quoi. Voilà. Ouais.
Est-ce qu'il y a une part d'improvisation, de sublimation ? On a beau répéter, un artiste va répéter le même spectacle, mais il se passe quelque chose.
Ah ben oui, oui, l'improvisation, elle est moins vraie qu'avant. Moi, avant, j'étais l'improvisateur en chef, quoi. C'est-à-dire que je faisais une espèce de one-man show où je ne sais pas où j'allais. J'allais voir les clients, par exemple, je leur dis non, oubliez la carte, je vais m'occuper de vous. Et puis je déroulais une intention de menu. Et puis je repartais en cuisine, j'étais parti sur autre chose. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, et je pense qu'on y gagne en qualité. On y perd peut-être parfois un tout petit peu en émotionnel, mais largement en qualité, parce que c'est plus cadré, c'est plus... Le process qui est en place, qui est très français, qui est très lié à notre savoir-faire, par les écoles hôtelières, par toute cette formation, par tout ce passé qui a construit peu à peu ce qu'on appelle la cuisine française, et bien permet de produire quelque chose qui est régulier, qui est stable et qui effectivement devient l'artisanat. Et moi, effectivement, ben je suis la personne qui construit mentalement cette petite œuvre créative, voilà, mais qui après pour durer et pour exister a besoin de techniques qui sont françaises. Effectivement, dans les cuisines, ben on parle français. Il y a des alors le monde est un peu en train de se rétracter, mais enfin aujourd'hui, ça a une vraie valeur notre savoir-faire dans le monde entier. Ouais. Oui, ça c'est un livre que j'aime beaucoup. Ce sont les langages clairs et bonne cuisine. Vous voyez, abricoter, abaisser, accrocher, accommoder, affadir, affiner, fade, éventer, vous voyez, communard, confit.
Communard, c'est un terme de cuisine, ça ?
Oui, c'est le cuisinier qui charrie la nourriture du personnel. Vous voyez, il est marrant ce bouquin, il est très drôle. Vous voyez, donc les mots, effectivement, et ça c'est un savoir-faire unique, quoi. C'est notre culture française, effectivement. Vous voyez.
Oui, il y a peut-être des mots de cuisine qu'on ne peut pas traduire. Comme
intraduisible.
Mijoter.
Intraduisible, ça c'est le problème. Enfin, la langue anglaise, elle est d'une pauvreté absolue. Elle n'est pas faite pour le rock'n'roll, mais elle n'est pas du tout bonne pour la cuisine.
Est-ce que vous diriez, François, qu'il y a un rythme dans le repas, que c'est une scansion, justement ?
Ah ben, complètement, ça c'est évident. Et moi, dans mon métier d'organisation d'événements, enfin, je sais que je ne dois pas dépasser... 1h30, 1h45 maximum pour envoyer mon repas. Si ça peut être 1h15, c'est mieux. Parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'on ne peut pas passer un temps indéfini à table, parce que c'est ennuyeux. On sait tous qu'il n'y a rien pire que le mariage qui s'éternise, où on attend une demi-heure entre chaque plat. Après, tout ça est rythmé par la conversation et par plein d'autres choses. Je disais, peut-être passer 3 heures à table. Mais à un moment, vous pouvez faire un repas très rapide, et puis après, vous vous retrouvez au salon, vous vous retrouvez dans le jardin, et fumez un cigare pour avoir un digestif, voilà. Et la chose continue. Mais il y a vraiment une scansion, effectivement, dans le repas. Il faut que ça avance.
Je parle souvent de la vibration, mais...
Manon Fleury.
C'est une volonté d'avoir ce côté vivant.
Chef étoilé.
Par exemple,
On a dans les premières séquences du menu qu'on sert chez Dathil, il y a un beignet qui est servi chaud et qui est servi sur une sorte de socle. Et les gens doivent le manger avec les doigts, donc on ne met pas de vaisselle et les gens sont obligés de manger avec les doigts. Et le manger chaud. Et il y a un rapport, je pense, à la fois à la chaleur, avec les doigts, avec le fait de, aussi de... On met un petit ketchup sous ce beignet pour coller le beignet sur le socle, mais aussi pour que les gens terminent le beignet en léchant avec les doigts le socle. Et je trouve que c'est hyper chouette d'avoir ce rapport aussi sensuel au début du repas, dans une cuisine française qui souvent se mange avec la fourchette, et d'inciter les clients à avoir ce rapport effectivement sensuel, là où parfois, quand on est dans un restaurant gastronomique, on ne se permet pas ce genre de choses. Donc on essaie comme ça de rythmer le repas avec des choses qui viennent aussi les amener à se poser des questions, à avoir aussi des émotions, parce que c'est aussi ça qu'on veut. C'est comme dans un spectacle de danse ou un show artistique, l'idée c'est de créer des émotions et des sensations aux gens qui viennent au restaurant, donc qu'ils puissent avoir sentir la chaleur, le sel du beignet sous les doigts. J'adore ce genre de rythme là et de rapport aussi à la cuisine. Moi je mange beaucoup avec les doigts, donc j'aime bien le fait qu'on casse aussi un peu les codes. Et ils finissent le repas en mangeant aussi une madeleine. Et parfois, on met une petite cuillère parce qu'il y a parfois un élément qui se mange à la cuillère à côté. Et il y a des clients qui mangent leur madeleine avec la cuillère. Alors on leur dit, mais vous êtes interdit de manger la madeleine avec la cuillère. C'est interdit, vous la mangez avec les doigts parce que c'est un plaisir ultra régressif. Ça, c'est aussi hyper intéressant de voir comment les gens se comportent vis-à-vis de ça et de les chambouler un petit peu. Bon, on va pas très loin, hein, mais on essaie un peu de les chambouler.
Pour préciser juste, Manon, quand vous parlez de séquence, vous parlez de plat.
Oui, on parle de plat, mais dans une séquence, il peut y avoir plusieurs assiettes.
Donc c'est ça, aujourd'hui, chez vous, on ne vient pas manger des plats, on vient voir un spectacle, ou en tout cas vivre des séquences comme une séquence cinématographique presque.
Vivre une expérience particulière, oui.
On peut aussi avoir envie d'aller dans un restaurant où le maître d'hôtel ou le serveur est vraiment, vraiment bien câblé et très drôle, et on va parfois au resto comme on va au théâtre. C'est très très agréable de vivre ce genre de... Il y avait un resto à Marseille qui était tenu par des sœurs. Les trois sœurs s'appelaient. Et t'y allais, mais tu pouvais te faire insulter, vilipender, mais t'y allais pour ça, t'y allais pas pour manger parce que c'était pas bon. Tout, ça n'avait aucun intérêt. Mais t'y allais parce que t'allais vivre effectivement quelque chose d'unique. Parce qu'elle allait te haranguer, parce que t'allais arriver en retard et ça allait pas lui plaire, ou t'allais refuser de te resservir une deuxième fois. Et là, c'était parti pour 5 minutes de diatribe marseillaise, et c'était magnifique, magnifique, à pleurer de rire. Pour le coup, c'était une pièce de théâtre tous les midis, hein, du lundi au vendredi. C'est génial. Donc il y a ça aussi qu'on peut vouloir vivre.
Vous savez, la vie d'un plat, c'est quelques minutes. Hein. Un plat, ça vit 3-4 minutes. Et c'est ça qui est je pense, assez émouvant. C'est qu'on vend du souvenir, on vend de la nostalgie, on vend... on peut pas mettre sur l'étagère notre petit chef-d'œuvre. Notre chef-d'œuvre, il est fait pour être consommé. Et il est fait pour laisser des émotions personnelles qui vont être liées, bien sûr, à ce qu'on a mangé, mais aussi avec qui on l'a partagé. Voilà. Alors, on peut avoir du plaisir à manger seul, mais quand même, un repas, le pain, on le partage. Le verre de vin, on le partage. On offre la possibilité de partager des émotions, de partager un moment qui va aller au-delà du repas. Un repas, c'est un moment d'échange. D'ailleurs, on voit bien, hein, que ce soit un repas dans une tribu africaine ou un repas d'État avec de dictateurs, on mange un morceau, hein, et on s'explique. Hein, voilà.
Alors, parmi les personnages illustres et les dirigeants connus que la France a accueillis à sa table, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des amis de la France qui sont venus dîner à l'Élysée. On peut penser à...
Kadhafi,
voilà par exemple Kadhafi. Allez, alors vous vous souvenez peut-être, Loïc Bernassi, que président Kadhafi était accueilli en 2007 en France. Il logeait à l'époque dans une tente à l'hôtel Marigny et il était venu déjeuner à l'Élysée. Je ne sais pas si vous connaissiez le menu.
Non.
Alors, il avait dégusté un moelleux de volaille forestière à la tomate confite et de la semoule aux amandes et raisins. On pourrait dire que c'était presque un couscous.
Alors, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, cette idée de clin d'œil, d'hommage à l'invité. Un repas où le roi du Portugal, au début du XXe siècle, était invité, eh bien, on trouvait préparé, je crois que c'était une volaille avec du vin de Porto, vous voyez. Donc ça, c'est un vieux truc, j'allais dire, des repas officiels, que ces petits hommages, qui est aussi une façon de montrer, d'ailleurs, que l'art culinaire français, c'est un peu tout faire. C'est s'approprier tous les savoir-faire, c'est revisiter tous les plats, et c'est s'approprier tous les produits.
Donc, quand on sert de la semoule aux amandes et aux raisins à Mouammar Kadhafi à Paris en 2007, on lui sert presque un couscous, mais sans vraiment dire le nom, pour lui faire plaisir.
Pour lui faire plaisir, pour comme un petit jeu culinaire, je pense, tout à fait.
« 17 juin 1976. Dîner à l'Élysée en l'honneur du président de la République arabe syrienne et de Madame Hafez al-Assad, par Monsieur le président de la République française et Madame Valérie Giscard d'Estaing. Saumon farci glacé aux écrevisses, en sa sauce aux laitances roses. Sel d'agneau gratiné aux amandines. Jardinière de légumes nouveaux. Salade panachée aux herbes, fromage, marmite nougatine glacée à la fraise. »
Il est incontestable que la table a toujours été pour la France aussi, j'allais dire, un lieu où on l'attendait. C'est-à-dire où ceux qui visitaient, ceux qui assistaient à un dîner officiel, espéraient bien être particulièrement bien traités. Et je pense que, globalement, la France a toujours su tenir son rang en ce domaine. Un exemple récent, le plus spectaculaire, c'était la COP21, en 2015. On a là finalement un moment assez unique, puisqu'on a 150 chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis. Alors évidemment pour discuter du réchauffement climatique et de s'accorder sur les mesures à prendre pour contrer ce réchauffement climatique. Et on a en ouverture de cette COP21 un déjeuner qui est donné. Donc c'est quand même un moment unique, 150 chefs d'État et de gouvernement. Et ben pour l'occasion, on a des grands chefs qui sont là à titre bénévole. D'ailleurs, ces chefs, des chefs connus, des chefs étoilés, triple étoilés, et qui vont proposer un repas où, clairement, et là, on voit un autre enjeu politique, sont représentées toutes les saveurs de la France. C'est-à-dire qu'on a un Paris-Brest en dessert, il est agrémenté, je crois, c'est de mandarines de Corse, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. On a du fromage qui vient, c'est du reblochon qui vient des Alpes. On a une volaille qui vient de Lic, c'est-à-dire du nord de la France. Les vins viennent de Bourgogne, de Champagne et de Bordeaux. Donc, il y a l'idée que toute la France et aussi toutes les géographies de la France, montagne, littoraux, plaine de l'intérieur, soient représentés. Là, c'est un discours qui est en place dès le XVIIIe siècle en France. Donc finalement, ce repas, c'est aussi une démonstration que la cuisine française fait ce qu'elle a toujours su faire.
Et encore aujourd'hui, la table à la française, ça reste une grande référence.
Ah, mais plus que jamais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai retour aujourd'hui. Vous le voyez sur Instagram, les marques se sont mises à faire des très grands dîners pour leurs clients ou pour leurs clientes, notamment en haute joaillerie ou en haute couture. Toutes les marques de luxe, enfin beaucoup de marques de luxe aujourd'hui, développent des gammes d'art de la table et reçoivent, comme elles n'ont jamais reçu, dans des dîners absolument somptueux, mais sur lesquels elles ne communiquent pas nécessairement.
Et alors pourquoi toutes ces marques de luxe se mettent à investir la table, si je peux dire? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte?
Ça dit que... on n'a jamais eu autant de gens aussi riches dans le monde qui pouvaient acheter des arts de la table parfois très dispendieux, que ces gens ont ou non le discernement entre ce qui est une grande manufacture française qui fait de la porcelaine depuis toujours et une marque de sac qui va commencer à faire de la porcelaine. Donc voilà, moi je lisais récemment, vous avez une sorte de plat qui est fabriqué à Sèvres et le plat coûte aussi cher qu'une année de loyer d'hôtel particulier dans Paris. C'est un peu aujourd'hui comme... on ne fait pas le rapprochement, mais en même temps, je me suis dit c'est un peu la même chose. Vous savez, certains sacs de maisons de luxe aujourd'hui qui coûtent le prix d'un appartement, on est vraiment dans le même rapport d'échelle, en fait. Et donc, on a la création de toutes ces choses qui sont totalement folles. Alors, on peut dire ça comme ça. En fait, moi j'ai longtemps travaillé...
chez des traiteurs, j'ai travaillé dans des grandes maisons, j'organisais des réceptions, des choses parfois très protocolaires, ça pouvait être des séminaires, ça pouvait être des choses très ennuyeuses, mais j'ai organisé des fêtes chez des particuliers. Donc mon métier, c'est un métier de, à la fois de futilité vue de l'extérieur, mais de grande rigueur, en fait. Je vais faire des guidelines pour une marque, par exemple, ça peut être une marque de spiritueux, sur comment cette marque doit ou peut recevoir partout dans le monde de la même façon pour être dans un esprit français tout en respectant les codes de la marque. On convoque ce service à la française du 17e ou du 18e siècle ou du 19e siècle parce qu'après les gens le situent pas forcément dans le temps, mais cette espèce de grand banquet français fastueux, mais à un moment c'est pas que les arts de la table, c'est quand même un savoir-faire français absolument fabuleux. Et je pense que c'est ce qui fait rêver les gens.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de revenir justement à une France d'avant, une France qui échappe ? C'est-à-dire que d'un côté, ils sont dans quelque chose de très qui consomme et qui brûle très rapidement, les icônes en premier, c'est-à-dire leurs égéries, et en même temps, ils convoquent quelque chose qui est très ancien. C'est comme si on se raccrochait à un temps qui est en train de filer.
Oui, alors je sais comment je vais vous répondre. Je vais vous répondre en tant qu'organisateur d'événements. Et on organise des dîners très régulièrement à l'Opéra. Et c'est des semaines de travail, des journées de montage. C'est un moment de rêve, un moment extraordinaire, un moment de sociabilité, des grands vins, des plats exquis. Mais quand vous n'êtes pas le convive qui était à table, moi qui suis l'organisateur, et que une heure et demie après qu'il soit passé à table, j'attaque le démontage du dîner. De tout, la vaisselle, on retire les nappes, on casse les tables, et on se retrouve dans notre hangar vide. À un moment, vous avez aussi, comme pour la mode, ce petit côté, tout ça pour ça, quoi. Enfin, c'est du rêve, mais c'est extrêmement futile aussi, quoi, quand même. Mais c'est merveilleux.
À table, laissez les mains.
C'était Manger la France, épisode 3, à table. Un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par David Jacubovier. Avec Swad, du monticule culinaire et les habitants du Plan d'Aou à Marseille, François Motte, Emmanuel Perraudin, Esther El Payani, Pierre Gagnère, Loïc Bienassi, Madame Mandy Payost et les élèves de CM1 de l'école de l'Arbre Sec. Merci à l'équipe du Balzac, à Magali et à Thierry Méchineau, à l'école de l'Arbre Sec, à Yannick May et à son équipe, à Fabrice L'Extrait et au festival Couscous. Lecture Clémentine Bernard, prise de son Olivia Branger, Nicolas Depagraf et Alexandre Dombe. Documentation Adelise Signoret, Archivina Ingrid Anne Lecointe, Mixage Jason Taous. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin et Johanna Bedeau. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
Menu Paris Centre. Entrée, semoule bio et quinoa façon taboulée. Plat, parmentier, cabillaud, pêche, durable. Dessert, fromage blanc, pomme, poire, crumble, sucré, vanille.
Ça a changé la présentation.
Prochain épisode.
Ouais, ça a changé.
Il n'y a plus de saison.
C'est plus propre à la dernière.
Non, c'est les adultes. C'est les adultes.
En fait, il y avait les couverts là-bas.
C'était pas du tout pareil.
Apparemment, c'est le même.